Mobile studio.
Studio mobile, Radio Dua, ici à Pompompom.
Il est 14h32 sur RDIWA, 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Nous sommes en direct de la rue Camille Buffardel et du Festival de la Clairette, Les Espiègleries, 4e édition 2015, hein, en ce samedi 16 mai 2015. Nous sommes en direct donc dans la rue Camille Buffardel, ça veut dire que si vous nous entendez à l'autre bout de votre poste, eh ben vous pouvez passer, nous faire un petit coucou, déguster la Clairette, puisque c'est dans cette rue que tous les vignerons se sont installés pour nous offrir leur cuvée. Avec moi, Émilie. Salut, Émilie.
Salut, Baptiste.
Alors, tu vas comme ça m'épauler tout l'après-midi pour faire ce studio mobile.
Je tâcherai d'être une assistante de choc.
Oh oui. Et puis, il y aura Yves également, qui pour l'instant est allé faire pitance, comme on dit. Ah non, il est revenu, tiens. Bah, Yves, tu veux dire bonjour aux auditeurs aussi ?
Bonjour les auditeurs.
Voilà. Donc à nous trois pour RDIWA, pour passer une après-midi avec vous jusqu'à 17h30, je lis sur mon planning, mais peut-être que ça dépassera. On verra bien. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Salut Fabien, salut Harold.
Bonjour.
Bonjour.
Fabien Lombard, président du syndicat de la Clairette et des vins du DIWA. Harold David, directeur de l'association Festival Est-Ouest, Théâtre de Die. Il y a du vent, c'est la preuve qu'on est bien dehors. Puisque c'est la grosse journée, hein. Non pas que j'ai bien retenu que les autres journées n'étaient pas dépourvues, hein, en programmation, pour autant. On se fera d'ailleurs des petits retours sur ce qui s'est passé le jeudi 14 et le vendredi 15, notamment avec des interviews des artistes. Mais là, on est dans ce jeudi 16 mai.
Donc,
samedi 16 mai, il est 14h34. Voilà, il y a déjà une bonne partie de la journée qui s'est lancée. Qui veut...
Je vais commencer donc par rapport au début de matinée où on a commencé à voir les premiers visiteurs et surtout les nuages qui sont partis et le soleil qui est arrivé. Donc c'était très agréable pour commencer la dégustation des clairettes et des créments qui se poursuit dans l'après-midi voilà, sur un rythme assez soutenu.
Ce qui veut dire qu'il y a du monde, ce qui fait plaisir, à la fois pour les organisateurs, mais aussi pour les commerçants, le tourisme local d'Iwa. Voilà, je pense que c'est un des objectifs de cette manifestation que d'attirer, en étant en partenariat avec d'autres structures et événements, le public le plus large et diversifié possible pendant ce grand week-end de l'Ascension. Et manifestement, voilà, vu la densité... au mètre carré dans les rues de Die, eh bien, il semblerait que de ce point de vue-là, cet objectif-là ait été atteint. Bien que nous ayons beaucoup d'autres objectifs dont j'aurais tendance à penser qu'ils sont aussi atteints. Voilà.
On va les détailler alors.
Mais avec plaisir.
Mais tout d'abord sur cette fréquentation, est-ce que vous arrivez à vous faire un bilan, hein, depuis 4 ans, la première fois qu'on faisait un studio mobile pour les Espiègleries, on était au Méros à ce moment-là et ça avait quand même très correctement fonctionné, mais à l'époque quand même les commerçants avaient dit bah, c'est dommage, ça se passe pas dans la ville. Bon, maintenant ça se passe dans la ville depuis 3 ans. Est-ce que vous voyez l'un comme l'autre une fréquentation qui s'accroît réellement, ou là c'est particulier?
Alors ça se passe depuis 2 ans seulement dans la ville, parce qu'avant la deuxième édition était autour du théâtre. Donc là on a vraiment reproduit un petit peu plus le festival de la troisième année. Et alors nous, il y a un compteur qui est très facile, hein, pour voir la fréquentation, c'est le nombre de verres qui a été distribué dans la journée. Donc c'est vrai que c'est un indicateur qu'on regarde à la fin, mais c'est vrai que déjà visuellement, sans avoir les premiers résultats, on trouve qu'il y a pas mal de dégustateurs. Et puis surtout, c'est pas que la quantité, c'est aussi la qualité des personnes qui viennent à notre rencontre pour déguster. Et là, ce matin, en tout cas, moi, pour être resté sur mon stand toute la matinée, j'ai eu énormément de conversations très intéressantes, des personnes motivées, donc ça fait plaisir.
De quel ordre? C'est quoi tes conversations, justement?
Eh bien, des explications, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que tout est connu déjà, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas les différences entre un crément, une clairette, et puis je vais faire un petit peu de communication pour le coteau de Die aussi, cette petite appellation d'un nectar. Et donc, moi, j'ai beaucoup de difficultés parfois à expliquer. Et bien, ce matin, j'avais un public qui était très attentif et qui avait envie de comprendre et d'apprendre et qui était très attentif. Ouais, ça, donc, c'est vraiment important.
A priori, pas un public DIY alors? Je sais qu'il y a encore des Diwa qui ne savent pas ce que sont les coteaux de Die. Hein. Alors, je me suis fait avoir tout ça il n'y a pas très longtemps.
Et je pense.
Émilie.
Moi, j'attends. Hein.
Ouais, je pense qu'on a une belle mixité. Et ce qu'il faut dans ce festival, ce n'est pas forcément viser que l'extérieur ou que l'intérieur. C'est justement que cette mixité fonctionne et que le festival de la Clairette, c'est pour les Diwa et pour tout le monde.
Ma question, c'était plus pour savoir si justement, quand même, tu avais l'impression de donner plus d'explications à des gens qui n'étaient pas Diwa.
Oui, non, mais j'avais compris la question.
Donc je la repose, hein, tant pis.
Mais j'ai donné des explications et je vais répondre à des Diwa qui ne connaissent pas encore la différence et à des personnes extérieures.
Ah ouais. Voilà. Bon, eh ben alors on saura peut-être le montant des verres écoulés.
L'année dernière,
même.
Il y en avait 803, donc on va voir cette année si on dépasse le quota des 803 verres distribués dans la journée.
Allez, abattre.
Abattre, c'est ça.
On est donc avec vous deux qui êtes les principaux représentants des organisateurs du Festival de la Clairette, à savoir donc le syndicat qui en est le commanditaire, l'association Festival SOS Théâtre de Die qui en assure la gestion, l'opération.
Hein. C'est ça.
Et puis il y a un certain nombre d'autres personnes avec vous. Est-ce qu'on pourrait avoir comme ça le regard de l'organisateur, du régisseur général, par exemple, Théâtre de Die.
Sur les partenariats qui sont mis en place.
Et puis comment ça fonctionne?
Ben, ça fonctionne de manière assez collective et collégiale. En tout cas, c'est comme ça qu'on a souhaité mettre en place, depuis le début d'ailleurs, l'organisation des espiègleries avec le syndicat, c'est-à-dire de mettre en place ce qu'on appelle des comités de pilotage. Alors, c'est un mot un peu pompeux pour dire qu'on se réunit régulièrement, c'est-à-dire en gros tous les mois et demi, à partir du mois d'octobre, qui est en général le moment où on décide conjointement, syndicat et association Festival SOS Théâtre de Die, de se projeter dans une nouvelle édition pour le festival, sachant que c'est pas un truc automatique. Voilà, tous les ans, c'est quand même re-questionné, re-interrogé, aussi bien au niveau du syndicat que de l'association Festival SOS.
C'est une interrogation partagée, mais chaque année, voilà, on se met d'accord. Depuis 3 ans pour repartir.
Et à partir de ce moment-là, effectivement, on mobilise un certain nombre d'acteurs qui maintenant sont récurrents et vraiment sont des partenaires réguliers, tels que l'Office de tourisme, la ville de Die, la commune libre de Saint-Marcel, les commerçants, voilà, tout à fait.
Le marché des potiers.
Le marché des potiers, le Die Athletic Club qui organise la corrida là, qui aura lieu tout à l'heure à partir de 16h.
En plus, ça va passer devant nous, on va se marrer.
Voilà.
Et le marché artisanal aussi du bas de la ville, place Saint-Pierre.
Voilà, tout à fait. Donc ça, ce sont vraiment les chevilles ouvrières principales qu'on rencontre et avec qui on se réunit tout au long de cette préparation pour être prêt le jour J.
Pourquoi cette remise en question finalement? Est-ce que c'est compliqué de s'imaginer poursuivre comme ça, voire même anticiper 1 an, 2 ans à l'avance l'organisation de cet événement? Majeur quand même.
Majeur, on le veut majeur en tout cas. Et il est pour moi aujourd'hui majeur. Non, c'est que chaque année, il y a quand même des contraintes aussi budgétaires des uns et des autres, des engagements des vignerons. Et du coup, c'est vrai qu'il faut. Nous, on est assez démocratique dans notre syndicat. Et du coup, chaque année, on repasse en conseil d'administration, on discute sur les orientations éventuellement qu'on peut avoir. Et du coup, voilà, c'est pour ça que ça prend ce temps-là de quelques mois de réflexion avant de confirmer une nouvelle édition. Mais après. Les indicateurs sont chaque année de mieux en mieux, donc il faut se réjouir et effectivement les espiègleries s'installent petit à petit dans la programmation du début de saison et donc je pense que la réflexion sera de moins en moins longue. En tout cas, je l'espère.
Ouais, ça ne m'étonne pas trop qu'il y ait ce re-questionnement tous les ans, parce qu'un festival, pour savoir s'il va vraiment s'inscrire dans un paysage, sur un territoire, être identifié et en possibilité d'être pérennisé, il faut entre 5 et 6 éditions. Quoi. Et après, en général, si tu as passé les 5-6 premières éditions, si l'énergie de l'équipe qui porte est toujours là, normalement, il y a assez peu de raisons que la manifestation soit remise en cause parce qu'elle est justement reconnue, identifiée par tous, ce qui n'a pas été le cas des espiègleries pour plusieurs raisons, qui étaient d'une part que les espiègleries ont succédé à la fête
de la Clairette.
De la Clairette, voilà, donc il y a eu cette transition aussi à faire.
Un changement
donc,
de nom, quoi.
Voilà. Un changement de nom, un changement d'identité quand même aussi en termes de contenu des manifestations, un changement de date, ce qui n'était pas rien non plus. Et donc du coup, un temps d'appropriation presque plus long que quand on crée quelque chose ex nihilo et que là, il n'y a pas d'histoire à assumer.
Avec
ou à
presque
porter.
Un peu des reproches finalement, tiens, ça change de nom ou ça change d'endroit, ça change de formule. Ça a même changé de lieu une fois que vous étiez dans le mode espièglerie.
Oui. Mais parce que il faut aussi accepter l'idée que un festival c'est comme presque une chose vivante parce que c'est fait par des êtres humains vivants et que donc par conséquent ça évolue, ça bouge, ça pense, ça réfléchit, ça se remet en question, ça fait des conneries, ça fait des erreurs, ça réussit aussi des fois et que donc voilà parce que c'est fait par des individualités qui mettent collectivement leurs énergies ensemble, eh bien forcément il y a une expérience qui se vit et qui s'acquiert et qui fait que aussi à un moment donné on arrive à la partager puis à trouver la formule qui semble répondre à tous les paramètres qui soient effectivement économiques, financiers, en termes de communication, en termes de charge de travail, etc. Voilà, mais ça prend des temps d'ajustement qui peuvent parfois susciter, effectivement, comme tu le disais, des critiques ou des remarques négatives. Mais là-dessus, je crois que aussi bien au syndicat que pour ce qui nous concerne à l'association Festival SOS Tête de Die, enfin, je sais qu'avec Fabien, on partage ce point de vue-là, il pourrait compléter, mais que à partir du moment où on fait des choses, forcément...
On fait des erreurs.
On peut se tromper et ne pas tout réussir du premier coup. Et voilà, c'est aussi humain. Et c'est pas pour autant qu'on va pas essayer de faire mieux la prochaine fois, à la fois d'après surtout. Et que tout cela n'est quand même pas très grave. Ce ne sont que des manifestations qui ont vocation à donner du plaisir aux gens. Donc, s'il y a des petits ajustements qu'il faut faire, bah voilà, ça fait partie de la vie et tout va bien.
Oui, ça montre bien notre ouverture en fait et notre dialogue entre toutes les associations. C'est que justement chaque année, on est capable de se remettre un peu en question et de pouvoir changer le lieu, changer un tout petit peu des choses. Ça montre que justement, on s'adapte au mieux et petit à petit, on fait du réglage. Hein. Aujourd'hui, on a une belle voiture qui pourrait être le festival et on est en train de faire les derniers réglages moteurs. Je pense à peu près où on en est aujourd'hui. Mm-hmm.
Puis on espère qu'on aura toujours du gasoil à mettre dedans, si je peux me permettre cette image symbolique.
On reste dans
la voiture. J'espère assez explicite pour filer la métaphore. Quand je dis gasoil, ça veut dire qu'effectivement, un festival où, en dehors des spectacles qui sont à des tarifs tout à fait abordables, me semble-t-il, l'ensemble des animations et propositions sont totalement gratuites, ça suppose qu'il y ait non seulement effectivement un engagement, et ça, le syndicat y tient, je crois, enfin, être présent en tant que sponsor de cet événement qui met son du phare en valeur, mais aussi les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer pour faire que cet événement qui est un événement de promotion du territoire et du produit Clairette soit aussi tout aussi fortement un événement touristique important et participe à la vie économique et au développement de ce territoire.
Là où, par exemple, l'Union des commerçants, pour les citer, mais l'ensemble des commerçants de Die sont directement intéressés par ce brassage-là de population.
Ils devraient, oui.
Et ils ne le sont pas dans les faits, par exemple.
Si, ils le sont. Ils le sont en partie, on va dire. Voilà, c'est pas de l'ordre de l'évidence. Voilà, mais de la même manière que...
Pareil pour la ville de Die, on en a déjà débattu.
Voilà, pour certains partenaires financiers, c'est pas forcément de l'ordre de l'évidence. Alors que pour défendre ce projet que je porte avec l'association, mais c'est que c'est toujours étonnant de se rendre compte qu'un événement qui a pour vocation de mettre en valeur un territoire, de le rendre plus attractif, etc., que de s'y investir d'une manière ou d'une autre, ne soit pas une évidence. Moi, ça m'étonne... Ça ne cesse jamais de m'étonner, plutôt.
Surtout quand on parle de la Clairette de Die, il me semble quand même que... Enfin, en plus, tu es devenu ambassadeur, alors là, tu peux pas ne pas aller...
Certes, mon destin est désormais scellé avec celui de la Clairette.
Il est complètement dans son rôle de chevalier de la confrérie de la Clairette de Die, effectivement.
Que tu es aussi, d'ailleurs. Hein.
Oui, forcément. Oui, ben là, je suis forcément le premier défenseur en étant président du syndicat de la Clairette.
Alors, plus légitime que moi, d'ailleurs, être chevalier.
Non pas que ce soit pas positif de parler de finances et du fait d'ailleurs que ces finances se réduisent et qu'il ne paraît pas évident à certaines personnes qu'il faudrait qu'ils continuent de financer un tel événement. On est donc le samedi 16 mai, il s'est passé deux jours assez positifs. Moi je ne t'ai vu qu'hier, Harold, très souriant, prendre la parole juste avant le spectacle de Évasion. Rôle qui, peut-être certains Diois t'ont vu prendre, pas forcément avec la même joie. Donc c'est que c'est en train de fonctionner. Parlez-nous un peu de ce jeudi, de l'inauguration, de ce qui s'est passé ensuite et puis du vendredi.
Pour l'inauguration, assez traditionnelle, hein, pour lancer le festival avec bien sûr les partenaires élus et différents partenaires de la ville de Lille et autres.
Il n'y a rien eu d'exceptionnel justement, dommage.
Si, il y a eu, si,
personne s'est lâché.
L'exceptionnel, c'est... Si, je trouve que la confrérie, au moment où elle a intronisé deux des comédiens de la troupe du théâtre du Fenouillet, s'est bien lâchée, au bon sens du terme, et que c'était un moment à la fois très drôle et très chaleureux, puisque pour l'anecdote, l'un des comédiens qui jouait dans La Nuit des Rois a la spécificité, à chaque fois qu'il joue une autre pièce du répertoire de cette compagnie, qui est donc le Malade imaginaire de Molière, doit être un des rares comédiens français, à chaque fois qu'il joue, donc à se boire une bouteille de clarette entière pendant le spectacle. Et donc voilà, il semblait tout à fait désigné pour être comment dirais-je, intronisé chevalier de l'ordre des compagnons de la Clairette. Donc voilà, après, ce qui était moi, ce qui m'a touché, c'est la population nombreuse, enfin qui est vraiment beaucoup de monde à cette inauguration. Il m'a semblé plus que les années précédentes.
On a trouvé plus que les années précédentes, effectivement, de personnes motivées par l'inauguration, et le temps était avec nous. C'était très agréable devant le théâtre, effectivement, de partager ce moment de convivialité et de joie de vivre.
Voilà. Et après, le public a été au rendez-vous pour les spectacles que nous avons accueillis, que ce soit les spectacles gratuits d'apéro-concert, que les spectacles de théâtre jeudi soir avec La Nuit des Rois et puis hier soir avec Évasion. Et effectivement, il t'a semblé j'arborais un sourire plus détendu, etc., c'était quand même pas seulement par rapport au fait qu'il y ait du monde au spectacle, puisque sur les Espiègleries, notamment, il y a toujours eu un public nombreux qui est venu découvrir les spectacles, mais c'est à titre personnel le fait d'être là, à partager ce moment avec justement tous nos partenaires, avec les artistes dans ce lieu que j'aime beaucoup depuis que j'y travaille maintenant, alors que c'était pas une affaire gagnée en début d'année 2015. De la même manière que cette quatrième édition, et Fabien disait tout à l'heure que le syndicat pouvait s'interroger, mais on a pu voir là à l'automne dernier que l'association Festival SOS Tête de 10 s'est aussi posé la question, pas de mon fait, mais c'est quand même aussi posé la question de savoir si elle continuerait ou pas à porter cet événement. Il se trouve que les événements ont fait que l'association continue à le porter, et je m'en réjouis. Du coup, effectivement, j'avais une émotion particulière depuis que le festival a commencé à être présent et à partager cette fête et ce festival de la Clairette avec tous nos partenaires et aussi, je dois le dire maintenant, beaucoup d'amis.
Oh, j'ai fait exprès, moi je savais pourquoi tu souriais en fait. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vous libère?
Moi, il va falloir me libérer, ça c'est sûr.
Bah, allez. Donc Harold David, directeur du Festival SOS Théâtre de Die, merci.
Merci.
Et quand tu reviens, si tu veux d'ailleurs. Plus tard quand tu t'ennuies.
Voilà, plus tard quand je m'ennuie. Mais je crois pas que je vais avoir trop l'occasion cet après-midi.
Fabien, pareil?
Oui, je vais un petit peu m'éclipser pour aller continuer à œuvrer à la dégustation, mais je reviendrai, je pense, à certains moments dans l'après-midi pour les différentes thématiques.
Fais-nous vite fait la pub des stands qu'on trouve là dans la rue Camille Buffardel. Vous êtes combien de producteurs en tout?
On est 13 caves à pouvoir proposer de la dégustation donc sur toute la rue Camille Buffardel. Le principe était simple, hein, et toujours simple, un verre, 3 € et on peut déguster partout. Et ensuite, on peut aussi participer aux ateliers qui se trouvent au musée de Die cet après-midi, à la fois des ateliers cocktails pour enfants et adultes, et également donc des ateliers de découverte des appellations, de découverte des arômes du vin et découverte également d'une dégustation en verre noir pour comprendre ce qu'est un blanc, un rouge, un rosé, mais sans avoir la couleur. Et puis, il ne faut pas oublier, à 14h30, le départ. Voilà, c'est quand même assez trop tard. Tant pis, vous pouvez aller aussi balader dans les vignes avec Cyril Copier, mais je vois que l'heure passe et c'est trop tard.
Ouais. Donc vous êtes déjà en train de vous balader. Donc le musée, oui. Et puis la corrida et puis tout un tas de choses encore qui arrivent. Fabien Lombard, merci. À plus tard aussi.
Merci.